Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour sœur Bénédicte Mariolle.
Bonjour Nathalie.
Alors sans plus tarder, s'il fallait que je fasse une seule présentation de vous, vous êtes docteur en théologie, mais vous êtes surtout, et ça c'est très important pour vous, petite sœur des pauvres.
Oui.
Voilà. Si je devais vous demander en introduction, dans ce deuxième temps de rencontre, quel est le charisme premier de votre communauté, des petites sœurs des pauvres?
Eh bien, petites sœurs des pauvres, vraiment, notre mission, c'est partout dans le monde, c'est d'accompagner, de vivre dans des grandes maisons familiales avec des personnes âgées, dont nous sommes les petites sœurs, voilà, on n'est pas au-dessus, et des personnes âgées qui souvent sont des personnes âgées qui ont peu de ressources, et voire même qui ont vécu la rue, et puis cet accompagnement, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire nous les accompagnons jusqu'à la fin de leur vie. Nous essayons de les entourer d'affection, leur permettre de vivre en paix la dernière partie de leur existence. Et puis on a la grâce de recueillir les fruits de ces existences vécues jusqu'au bout.
Donc de beaux cadeaux dans ces fins de vie, au fond, oui, que vous accompagnez, oui, qui est le cœur,
notre mission.
Qui est le cœur de votre mission, oui, et le cœur, oui, de cette congrégation. Alors au programme, c'était important aussi pour vous d'ouvrir un petit peu cette émission du jour sur l'expérience que vous avez vécue, l'expérience aussi et constatée aussi avec les événements que nous avons vécus ces derniers temps, ces derniers mois, l'expérience d'une profonde solitude, de la mort dans ces moments de fin de vie. C'est terrifiant de se dire que des personnes peuvent vivre ces derniers moments dans un isolement terrible.
C'est vraiment une expérience. Moi, j'ai été vraiment bousculée avec tout le monde, par l'expérience de la pandémie. On a vécu vraiment des choses difficiles où les familles étaient empêchées, pour des bonnes raisons peut-être, mais en tout cas, d'être auprès de leurs parents, grands-parents, pour vivre ces derniers moments. On a vécu des drames terribles de famille et même aussi de les accompagner dans les funérailles. Ça a été terrible et... Alors, on a fait brutalement l'expérience de cette solitude dans l'univers médicalisé, hyper médicalisé qui entoure la mort. Et j'espère que ce choc va nous réveiller parce que cette solitude devant la mort, elle n'était pas nouvelle, mais elle nous est apparue de façon
brutale,
très brutale.
Vous l'avez vécu comme un tsunami, une violence terrible.
Quand nous avons tellement à cœur, nos petites sœurs, on sait l'importance de cet accompagnement des derniers moments, la manière dont, l'importance pour les familles d'être là. Et donc c'est vrai que ça a été brutal, un choc brutal de pas pouvoir être là. Cette phase critique, elle est derrière nous, mais les questions, les questions demeurent. Et puis les questions, elles sont réactivées, à mon avis, par tous les débats actuels aussi sur la question
de l'euthanasie.
De choisir le moment de sa mort. Un débat d'ailleurs qui c'est très lié.
Au fond, c'est la question d'un suicide assisté, ni plus ni moins.
C'est euthanasie, suicide assisté, c'est deux modalités différentes, mais qui d'une vraie question. C'est la question qui est derrière, qui s'est posée aussi pendant la pandémie, c'est quel regard nos sociétés portent-elles sur le grand âge? Et puis, toutes ces questions, ça met à jour les peurs qui nous habitent. Peur de la déchéance physique ou psychique, peur de l'abandon des proches. Et je vous ai dit, elle a été mise à jour pendant la pandémie. Peur de la souffrance insupportable face à la mort. Vous voyez, c'est tout ça qui est mis à jour aujourd'hui dans notre société. En même temps, c'est paradoxal. En même temps, les progrès de la médecine donnent l'illusion d'une vie qui peut se prolonger sans fin. Donc, pastoralement parlant, c'est très difficile de parler avec une personne dont on sait qu'elle est en fin de vie, d'aborder la question de la mort, c'est-à-dire l'aider à vivre pleinement les derniers moments de sa vie, quand la médecine entretient indéfiniment l'idée qu'on va pouvoir guérir. Et c'est une vraie question. Voilà, et que c'est avec l'idée qu'on a un corps qui est manipulable à souhait, qu'on pourrait espérer remplacer des parties du corps comme des pièces de
machine. Donc là, vous
abordez
le sujet du transhumanisme.
C'est ça, quand, même si, enfin, qui est un peu derrière, un peu toutes les réflexions, enfin aussi, c'est qui nous habite un peu, c'est cette philosophie du transhumanisme qui avec en arrière-fond l'idée qu'on pourrait un jour ne plus mourir, qu'on pourrait
devenir immortel,
même inconsciemment nous habite tous un peu les uns les autres et nous empêche de vivre pleinement tout court, parce qu'on a une vie qui n'a plus d'échéance, alors à quoi bon s'engager? Et puis de vivre la fin de la vie comme un lieu où on recueille toute l'existence, où tout va prendre sens. Enfin, on nous prive, on nous vole notre fin de vie d'une certaine manière. C'est, voilà. C'est dans ce monde-là que, à mon avis, une parole d'espérance me paraît urgente. C'est, vous voyez, notre société s'interroge sur les conditions d'une fin de vie digne. Mais derrière tout cela, c'est quand même la question de la destinée humaine qui se pose de manière cruciale dans un monde qui paraît bien fragile aujourd'hui. Mais on vient de vivre la pandémie, mais il y a aussi la menace écologique qui pèse sur l'avenir de la planète.
La menace aussi des guerres, la menace
le retour
nucléaire aussi,
voilà, c'est ça, la menace
peut-être
nucléaire.
En Europe.
Qu'on le veuille ou non, on est mis en face des grandes questions de la fin de notre vie personnelle, mais aussi de la fin de l'humanité. Et donc, quelle espérance l'Église peut-elle donner dans ce monde-ci? Je pense que c'est une question qui nous est renvoyée à nous à chaque baptisé. Et donc, qu'il faut prendre au sérieux aujourd'hui, plus que jamais.
C'est des points cruciaux là, que ouais. c'est des points, je dirais, importants que vous relevez, qui montrent aussi toute cette fragilité de l'humanité, cette fragilité aussi individuelle, quand il s'agit aussi de cet enjeu de la mort, qui est souvent donc autour de la peur, même s'il y a eu cette explosion avec les épreuves que nous connaissons sur un plan sanitaire de pandémie. Cette peur de la mort est toujours, pour beaucoup, terrifiante. Surtout une mort dans une solitude profonde.
Oui.
Rien de plus terrifiant que de mourir sans être accompagné de proches.
C'est finalement le lieu par excellence où on éprouve sa fragilité dernière, ce que nous sommes tous fragiles, mais au moment de la mort encore plus, et où on a besoin des autres, on a besoin de l'entourage, on a besoin qu'on nous tienne la main. Et je pense qu'il est urgent que notre société redécouvre cette fraternité jusque-là. C'est cette fraternité toute simple d'être là au moment de ce grand passage. Et c'est un grand enjeu. Et en même temps, nous le vivons vraiment dans nos maisons comme quelque chose de naturel. Je peux vous dire que les résidents chez nous n'ont pas... c'est vrai que la mort est toujours vraiment une grande inconnue, une grande angoisse. Et en même temps, chez nous, les résidents de la porte d'à côté viennent vivre ce passage avec leur voisine qui est en train de... le personnel. Et ils voient comment la mort peut être aussi un lieu où se vit une certaine paix. Où la vie peut s'achever aussi, dans la paix de cet accompagnement, où on peut, dans une remise de soi. Et du coup, on enlève une peur. C'est vrai que
les murs tombent.
Donc
vous décrivez aussi que dans vos résidences, vos EHPAD, dans cette congrégation des petites sœurs des pauvres, les résidents eux-mêmes peuvent aussi vous accompagner leurs frères et sœurs résidents.
Exactement. Et ils voient autre chose que cette mort qu'on voit que violente sur les écrans de nos télévisions, dans les films. Et donc c'est ça que les gens ont de l'image de la mort. Or, la mort, jusqu'à il y a 50 ans, elle faisait partie de la vie. Les enfants étaient là, présents, auprès de leur grand-père. Moi, j'ai vécu ça avec mon grand-père. La mort paraissait naturelle. C'était, même si c'est toujours, on vit une séparation radicale, mais la mort est vraiment un lieu qui est de la vie et donc c'est autre chose que ce qu'on voit de la violence de la mort.
C'est un peu, je vous reçois, sœur Bénédicte Mariol, pour changer et faire entendre qu'il y a un autre regard que l'on peut au fond porter sur ces derniers moments de vie, parce que quand vous parlez de ces temps de fin de vie, ces temps aussi d'accompagnement, on entend bien que vous ne parlez et vous ne cessez de parler de vie. Donc il y a bien en finalité une mort en vue d'une vie éternelle au fond.
Oui, et évidemment, alors c'est ma foi et mon espérance, hein, mais même pour un non-croyant, il y a notre présence auprès des résidents jusqu'à la fin, la manière dont nous prenons soin du corps, enfin, qui n'est pas rien. Le corps, c'est celui qui a porté toute notre existence et dans lequel nous avons combattu, vécu. Prendre soin du corps, prendre soin des familles qui à ce moment-là, dit aussi, enfin, à tout le monde, quelque chose de la vie, que tout ne s'arrête pas là. Hein, que ce qui a été vécu ne saurait pas, et tout ce qui a été vécu, surtout de l'ordre de l'amour, de tout ce qui a construit une vie, ne peut s'achever là. Et évidemment, pour nous chrétiens, enfin, notre espérance, nous savons que tout ça est recueilli en Dieu, hein, que ce passage-là n'est pas la fin de tout. Et c'est de cela, alors c'est grand, parce que c'est de ça que nous sommes témoins, comme baptisés, enfin, nous, comme petites sœurs des pauvres, quand nous sommes présents auprès de quelqu'un qui meurt. C'est-à-dire, voilà, nous sommes cet ultime témoignage que cette vie, avec tout son poids d'humanité, son poids de relation, elle n'est pas achevée là. Hein, et que tous ces liens de communion continuent à vivre, à exister. Et nous essayons de le vivre avec les familles qui sont là.
Alors, merci infiniment, sœur Bénédicte Mariol. Je rappelle que vous êtes une petite sœur des pauvres et que, au fond, la vocation première des petites sœurs des pauvres, c'est l'accueil des plus pauvres et jusqu'à ces derniers moments de vie. Et c'est tout le sujet. Demain, je vous propose donc un autre volet, mais sur ce thème, qui est le fil conducteur jusqu'à la fin, ce thème de ces derniers moments de vie, comment accompagner la mort et puis, au fond, comment aussi en parler et vous en parler, je dirais, et vous poser des paroles de vérité. On parle de ces pratiques liturgiques aujourd'hui, dans l'Église, on en parle demain. Voilà, vous nous donnerez un peu plus d'informations. C'est votre domaine et votre spécialité. À demain, même lieu, même heure, ici à Lourdes, pendant ce pèlerinage du rosaire.